Bonjour tout le monde. Bon vendredi matin. J'espère que ça se passe bien pour vous malgré le contexte ambiant de cette espèce de reconfinement là auquel on va devoir faire face. Bien sûr, la nouvelle du jour, vous le savez, c'est le fait que Donald Trump, président des États-Unis, vient d'être testé positif avec sa conjointe Melania. Est-ce que, c'est la question que je vous pose d'ailleurs pendant la prochaine heure, on va discuter de ça avec plein d'invités et j'espère que vous serez nombreux à réagir à notre discussion. Est-ce que d'après vous, ça va renforcer le fait que Trump ait été testé positif à la COVID? Est-ce que ça risque de renforcer le message face au danger de la COVID ou au contraire, ça va renforcer les positions de ceux qui disent « Ben regardez, M. Trump va bien s'en sortir, c'est juste une grippe, comme il nous le dit depuis le début. » Puisqu'on le sait, Donald Trump y croit pas trop. D'ailleurs, extrait du débat qui l'opposait à Joe Biden cette semaine.
No, I think masks are okay. You have to understand, if you look, I mean, I have a mask right here. I put a mask on, you know, when I think I need it. When needed, I wear masks. Okay. I don't wear masks like him. Every time you see him, he's got a mask. He could be speaking 200 feet away from it. He shows up with the biggest mask I've ever seen.
Masks make a big difference. His own head of the CDC said if everybody wore a mask and social distance between now and January, we'd probably save up to 100,000 lives.
Alors, vous entendez, c'est toute la confrontation, finalement. Je trouve ça intéressant de vous présenter cet exemple-là parce que c'est aussi ce qu'on vit chez nous. Je pense que ce à quoi on a assisté cette semaine entre Trump et Biden, c'est aussi très ancré chez nous où il faut quand même le dire, les amis, on a eu une grosse semaine. On a eu une très, très grosse semaine. On l'a trouvé difficile. Je pense qu'on est plusieurs hein, à trouver que c'est pas évident. Puis oui, il y a cette question du reconfinement qui rajoute là, à la gravité, à la frustration, à notre sentiment qui peut être encore plus exacerbé là, d'anxiété et de stress. Mais il y a aussi tout ce qu'on entend comme message. La confusion parfois dans les messages, ne serait-ce encore qu'hier, confusion dans les messages du gouvernement. On a vu le docteur Arruda là, qui avait un petit peu de difficulté à nous expliquer véritablement les choses. Alors, on va discuter de ça et je vous présente tout de suite notre premier invité. Il a les deux mains dedans depuis le début, depuis plusieurs mois, puis il est bien gentil de prendre le temps pour nous en parler ce matin. Docteur François Marquis est avec nous. Bonjour, docteur Marquis.
Ah, bon matin.
Chef des services intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. François, est-ce que le fait que Donald Trump ait été testé positif, ça peut avoir un impact? Bien sûr, les Américains, c'est intéressant, mais chez nous aussi, quel pourrait être l'impact de la COVID chez lui?
Ben, je pense que il fait partie des groupes à risque. Hein, faut pas se le cacher. Là, il est âgé, il a une bonne bédaine. C'est qu'effectivement, il pourrait s'en attraper une bonne. Et je pense que l'impact va effectivement être de quel va être le déroulement de sa maladie. Certainement, s'il se ramasse aux soins intensifs, intubé ou même hospitalisé de façon importante, ça va avoir un impact réel parce que là, ils vont dire qu'il va quand même pas faire des fake news sur sa propre maladie. D'un autre côté, s'il est chanceux, comme certaines personnes âgées et à risque ont été chanceux, moi j'en ai eu des patients, j'en ai connu personnellement là, des patients, c'est genre 90 ans et plus, sténosarctique, tout le monde était convaincu qu'ils passeraient pas à travers et par une grande chance, ils sont passés à travers. Ils pourraient être chanceux comme ça et là avoir effectivement un effet dévastateur sur le message de santé publique et pour ceux qui en doute, là, moi, dans les derniers jours, tout ce que je vois rentrer à l'hôpital présentement, hein, c'est la deuxième vague. Là. J'ai des patients qui rentrent aux soins intensifs, j'en ai de plus en plus qui sont intubés. À l'urgence, on a de moins en moins de consultations pour des choses autres là, que des problèmes reliés à la COVID. Puis j'avais une réunion encore récemment, il y a deux jours, là, avec mes collègues là, des autres soins intensifs, même en pédiatrie, ce qu'on n'avait pas vu à la première vague, pédiatrie, femmes enceintes, ça commence à rentrer, même aux soins intensifs. Donc, la deuxième vague est là, elle frappe les jeunes, et je crois qu'on peut être inquiet pour M. Trump, parce que, dans le fond, on ne veut jamais souhaiter de mal à personne, mais autant si ça va mal pour lui, que ça peut avoir un gros impact, parce que c'est quand même un chef d'État, et il y a des responsabilités, et d'autre part, s'il l'a ultra facile, puis qu'il passe à travers comme un champion, ça peut miner complètement les efforts de la santé publique dans plusieurs pays.
Évidemment. Et chez nous, bon, c'est vrai que l'effet dévastateur peut être important sur la santé publique des Américains. Puis on l'a vu, la première vague a été dure aux États-Unis.
Elle a été extrêmement dure, mais déjà, si on le regarde même chez nous, la première vague a été dure chez nous. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu aux États-Unis. Mais les gens, on dirait qu'ils ont déjà oublié. Et moi, mon inquiétude, c'est des souvenirs négatifs d'il y a quelques mois versus une raison d'intellectualiser en disant « Regardez, c'est juste une grippe, enlevez-nous toutes nos contraintes. » C'est un contraste. Les gens aimeraient ça se faire dire qu'il n'y a rien là, puis que c'est pas dangereux, puis que c'est pas important de faire quoi que ce soit. C'est que dès qu'ils vont pouvoir se raccrocher à quelque chose de ce style-là, les efforts de santé publique vont être contrecarrés. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que la version A ou la version B se passe, il va y avoir des conséquences, et ces conséquences-là, nous, au Québec, on va avoir à les assumer aussi, parce que si les gens utilisent ça un peu comme un réveil matin et se mettent à faire extrêmement attention, ben ça va aider beaucoup notre système de santé. Donc, les gens qui attendent après une place à l'hôpital pour une maladie pas reliée à la COVID vont avoir des meilleures chances. Mais d'un autre côté, si les gens disent « Ah, mais regardez, Trump s'en est sorti, on arrête de faire attention », mais là, on risque d'avoir une augmentation des cas assez fulgurante et là, on va complètement saturer le système de santé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux options sont présentement possibles. Les deux vont avoir des conséquences sur notre système de santé. C'est certain que peu importe la trajectoire de la maladie de M. Trump, il va avoir des répercussions aux États-Unis, mais aussi au Québec et dans le reste du Canada.
Oui, on dit qu'il y a toujours cette base de 40% à peu près d'Américains qui, peu importe ce qu'ils disent, puis il y avait ceux qui vérifiaient les faits, là, des candidats qui... Bon, vous allez me dire, c'est CNN, puis il y a beaucoup de gens qui pensent que CNN est trop démocrate par rapport au reste et peut pas être vraiment objectif, mais quand même, je pense qu'à partir des faits, on est capable de voir est-ce que c'est vrai ce qu'il dit ou c'est pas vrai, puis la plupart des choses qu'il a dites à ce débat mardi, c'était des faussetés. Donc, c'est sûr qu'il y a cette base qui croit mordicus, peu importe ce qu'ils disent, ils pourraient lire le bottin puis ils voteraient quand même pour le président Trump. N'empêche que le fait qu'il ait la COVID, et là, ça vient de sortir il y a 3 minutes, là, la Maison-Blanche annonce que le président des États-Unis semble avoir que des symptômes mineurs de COVID-19. Ça, là, ça risque de renforcer le sentiment que c'est juste, comme il disait à l'époque, appeler ça un germe, vous pouvez appeler ça une grippe, vous pouvez appeler ça un virus, on peut appeler ça de toutes sortes de noms différents, je pense pas qu'on sache vraiment de quoi il s'agit. Il a dit ça, là. Lui, les germes, les virus, c'est la même affaire, là.
Ben non, ça c'est... Mais, bon, là, il faut s'entendre une chose, c'est qu'il n'est que... Probablement, il est au début de sa maladie. Donc, on se rappelle que la COVID, tout le monde commence relativement pas malade. Hein. C'est comme ça. Je veux dire, les plus grandes infections commencent par un petit frisson. Et là, on va voir dans les prochains jours. Mais on se rappelle qu'en Angleterre, il y avait eu un processus un peu similaire où un chef d'État disait « il n'y a rien là, il n'y a rien là », qui s'est ramassé aux soins intensifs et soudainement, ça l'a changé un peu la course de la prise en charge de la maladie.
Ben,
là,
tu parles de Boris Johnson, le premier ministre du Royaume-Uni, il l'a trouvé difficile.
Lui, il l'a eu solide.
Lui, il l'a eu difficile, oui. Il y a le président du Brésil aussi qui l'a eu, Jair Bolsonaro.
Mais effectivement, sur les 40% là, qui le voient un peu comme un messie puis qui vont toujours le suivre, il y a peu ou pas à faire pour ces gens-là. Ce qui m'inquiète, moi, c'est les gris. C'est ceux-là que c'est des gens qui se posent des questions. Puis c'est correct dans la vie de se poser des questions et qui sont encore ballottants. Là, eux autres, un matin, ils se lèvent puis ils sont pour le masque. Puis en fin de journée, ils se posent la question, est-ce qu'ils sont encore pour le masque? C'est correct d'avoir des doutes dans la vie. Et c'est pour ça que la communauté scientifique, la communauté médicale, la santé publique essaient de montrer pourquoi on fait ça, puis que c'est pas nécessairement juste pour soi. Mais ces gens-là qui sont un peu dans le doute, c'est eux qui peuvent massivement, tout d'un coup, se dire « Bon, ben regardez, on a l'exemple. » Et C'est quand même un influenceur hors pair, là, M. Trump.
Puis c'est pour ça que j'en parle ce matin. C'est parce qu'on pourrait dire, c'est le président des États-Unis, c'est un autre pays. Pour nous, c'est tellement collé à notre actualité qu'on n'a pas le choix d'en discuter. Et je pense que la planète entière, de toute façon, ce matin, un peu à notre exemple, le fait. Parce que c'est un des hommes les plus puissants de la planète. Quand il parle, on l'écoute. Et ses décisions, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, là, sont effectivement importantes et ont tout un impact sur nos vies. Oui. Donc, voilà pourquoi c'est important.
Oui. Et tu sais, on l'a vu, ça a eu un impact sur les marchés. Maintenant, si la maladie est sévère ou pas sévère, quel va être l'impact sur les élections? Est-ce qu'on reporte les élections? Est-ce qu'on a dit, moi, je suis loin d'être un spécialiste en politique internationale. Encore
moins. On va en parler avec des politicologues tout de suite après, oui.
Mais on le sent déjà, là. Tu dis, non. Trump, qui a la COVID, d'une façon ou d'une autre, ça va avoir un impact majeur. Et c'est certain que les deux grands partis vont reprendre la sauce pour essayer de mousser leur propre candidat. C'est certain que ça, c'est une carte qui n'était pas prévue. C'est un espèce de joker qui est sorti. On se pose la question, même dans un univers de fake news, est-ce que c'est vrai qu'il y a la COVID?
Ben, écoute, François, j'ai plein de gens qui m'écrivent ça. J'avoue que moi-même, ce matin, je me suis dit, est-ce une fake news?
Ça tombe avec un peu de dire que t'as une petite COVID, t'as passé à travers, t'es le héros des Américains, puis toi, même avec la COVID, t'es capable de gérer la Maison-Blanche, voter pour moi. Hey, ça serait une bonne idée.
Ouais. Et pendant 14 jours, t'es pas obligé de répondre à des questions difficiles. Tu comprends?
Exactement, là, parce qu'il faut te laisser une petite chance. J'aimerais ça, moi, le voir, si j'étais capable de le voir, le vrai résultat. J'aimerais ça regarder le résultat du test.
On n'est pas capable de voir son rapport d'impôt. Fait que de là, avoir son résultat de test, je pense
Excellent point.
Mais je vais te laisser aller retourner à tes patients, mais je retiens quand même que tu nous disais que chez nous, ici, c'était quand même...
Il va avoir un impact.
Voilà, tu disais, je vois, moi, de plus en plus de gens intubés aux soins intensifs. C'est quand même... pour tous ceux qui sont... encore incrédule, le nombre de cas à Maisonneuve ce matin, là, ça ressemble à quoi, Dr Marquis?
Ça a probablement augmenté. Hier, quand j'ai quitté l'hôpital, je crois qu'il y en avait à peu près une vingtaine dans l'hôpital. Là-dessus, on avait deux d'intubés aux soins intensifs, un qui n'était pas intubé. Maintenant, on a trois d'intubés. J'en ai deux d'intubés en dépistage. Ça monte vite.
Et ce sont des cas de COVID là, dont tu me parles?
Oui, ça, c'est juste mes cas de COVID parce que mon unité est déjà pleine des autres cas. Là. Ça, c'est sûr que j'ai remis dans mon unité chaude puis mon unité de dépistage. Là. Et on a réouvert une unité de COVID à l'étage à l'hôpital Santa Cabrini qui fait partie de notre CIUSSS. On a ouvert une unité aussi.
Depuis quand vous avez été obligé de rouvrir une autre unité COVID?
C'est toute cette semaine, là. C'est dans les dernières 48 heures, là. Dans les 20, ça grimpe, là. Puis nous, les unités de soins intensifs du Québec, on est en réseau et on se tient au courant de nos chiffres et on prépare là, de commencer là, le jeu des échanges de patients dès que les ressources vont commencer à être dépassées. Déjà, moi, j'avais des appels des régions pendant cette réunion-là, qui disait « Ouais, finalement, la deuxième vague, ça commence à nous toucher, ça se peut qu'on ait besoin d'aide. » Et ça, c'est fondamentalement différent. La première vague, c'était surtout Montréal qui devait gérer Montréal. Mais là, c'est Montréal-Québec qui doivent gérer Montréal-Québec et aussi aider les régions qui sont moins garnies là en soins tertiaires. Pour nous, c'est une immense différence d'avoir aussi à supporter là, les hôpitaux des autres régions.
Donc, ton message aux auditeurs, c'est clairement de respecter les consignes. Hein?
Définitivement. Et essayez de nous donner un coup de main et aplatir la courbe. Là, ça serait vraiment le bon moment.
Merci beaucoup, Dr François Marquis, chef de service aux soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. On va s'arrêter ici. On va enchaîner, bien sûr, avec d'autres invités qui vont répondre à cette question que je vous pose. Est-ce que, d'après vous, le fait que Donald Trump ait annoncé qu'il est testé positif à la COVID avec sa conjointe, il y a beaucoup là, de son cercle rapproché là, qui, effectivement, ont été testés également. Est-ce que ça va renforcer, d'après vous, le message face au danger de la COVID ou au contraire, on va dire, garde, il est passé à travers, c'est vraiment juste une grippe. Vous me dites ce que vous en pensez au 514-790-9850. auditoire d'incrédules. Vous êtes fabuleux. Vous êtes à peu près 80% de gens qui m'écrivaient. Vous me dites, comme Ronald, Donald Trump a attrapé la COVID. Ben voyons donc, c'est une fake news. Louis, bonjour. Est-ce que vous êtes du même avis? C'est incroyable. Je suis submergée de gens qui m'écrivent pour me dire, ben voyons donc, Isabelle, crois pas ça. Il va s'en servir, Donald Trump. C'est vraiment une manipulation de l'opinion publique. Vous en pensez quoi, vous, Louis? Est-ce que c'est vrai, d'après vous, qu'il l'a attrapé ou pas?
Bon, bonjour, Madame Maréchal. Bonjour, tout le monde. Moi, j'ai une opinion et une idée, donc je crois que c'est tout simplement pour aller chercher de l'empathie chez les gens.
Ouais.
Je suis pas sûr que ce soit vrai ou faux, mais selon moi, c'est peut-être une stratégie de retranchement, étant donné ce qui est arrivé au premier débat. Ce serait ça mon opinion. Puis je vous écoute toujours, Madame Maréchal, j'aimerais juste ça dire juste une petite chose, s'il vous plaît, ok, si vous me le permettez, pour aider un peu à peut-être calmer les complotistes et tout ça, là, je vous inviterais, parce que on s'abreuve beaucoup des médias, surtout que j'écoute 98.5, on écoute Arca, ça fait longtemps, votre émission depuis belle lurette. Peut-être que les gens seraient un peu moins conspirationnistes si, exemple, présentement, le casino de Montréal est fermé, mm-hmm. donc on peut pas y aller parce que c'est en zone rouge, mais votre station invite les gens à aller au Playground Poker Club. Fait que moi, je pense que si vous auriez peut-être des fois un petit peu plus de... Parce ouais. que là, vous avez des discours à double tranchée. C'est comme vous parlez de deux côtés de la bouche.
Là, vous me parlez d'une publicité, Steve. Je suis désolée, malheureusement, c'est pas moi qui gère ça. Mais je comprends tout à fait votre idée. Donald Trump, donc, pourrait en profiter. Nous avons... pardon, c'est Steve qui est là. C'était Louis là, qui me parlait de tout ça. Mon Dieu, on est tout mêlés. Steve, bonjour. Ah, qui est là maintenant? Bon, ben, on va aller tout de suite à notre prochaine invité. Est-ce qu'on a Marie? On a Marie. Mary. Bonjour, Mary.
Bonjour, Madame Maréchal.
On vous écoute.
Je vais vous parler. Fake news. Monsieur n'a rien du tout. Ce n'est qu'une façon de dévier la situation qu'il va perdre son élection. C'est tout.
C'est assez clair. Merci beaucoup. Oui. Nous avons avec nous Christian Dufour. Il est politicologue. Bonjour, Christian.
Bonjour, Isabelle.
Alors, que doit-on penser de cette nouvelle qui fait le tour de la planète aujourd'hui? C'est vraiment la nouvelle du jour. Le président des États-Unis, Donald Trump, a été testé positif avec sa conjointe à la COVID. Tu prends ça comment, là, ta réaction à chaud comme ça?
Ben, sur le coup, on a tendance à penser que c'est humiliant pour Donald Trump, étant donné qu'il a eu tendance à minimiser la COVID. Mais ce qu'il faut noter, c'est que là, c'est pas le premier chef d'État international, la première personnalité qui l'a eu, là, la COVID. Ça commence à être un petit peu plus banalisé. Il y a Boris Johnson, le premier ministre britannique, qui l'avait eu très fortement, très intensément. Hein, il avait failli mourir. Le président du Brésil, Bolsonaro. Et c'est drôle, parce que ce sont des gens, en fait, qui ont minimisé la COVID et qui l'ont eu... eux-mêmes. Bon, ça va avoir un impact, c'est sûr, mais c'est pas nécessairement négatif pour Donald Trump dans un deuxième temps. Ça va dépendre, en fait, comment il va... ça paraît que les gens aient de la sympathie pour lui, hein, parce que là, il va être malade. Dans le cas de Boris Johnson au Royaume-Uni, puis de Bolsonaro en Brésil, ça fait augmenter leur popularité. J'ai vérifié tout à l'heure, dans un premier temps, il y avait de la sympathie. Est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce qu'il s'en sortira pas? Cela dit, je suis stupéfait de voir à quel point les gens sont dans les complots puis les fake news. Parce que moi, je crois qu'il a été testé positif à la COVID, comme sa femme, d'ailleurs. Mm-hmm. C'est un peu hallucinant de penser, mais en admettant même que lui mente pour lui-même, là, ben, je pense pas que sa femme embarquerait là-dedans. Donc, je pense qu'il a la COVID. C'est clair qu'il peut être très malade, parce qu'il est âgé, il est obèse. Puis à ce moment-là, peut-être qu'il va avoir de la sympathie pour lui. Ben, donc, on ne sait pas dans quel sens ça va jouer pas. Mais rappelons quand même ici, là, Yves-François Blanchette l'a eu, là, il y a M. O'Toole, là, lui aussi. Il y a beaucoup de monde qui l'ont eu, là, je veux dire. C'est plus banalisé qu'il y a 6 mois. Là.
Mais ça risque pas d'aller dans le sens du discours qu'il tient depuis des mois, puis qui influence beaucoup de gens, y compris des gens ici au Québec.
C'est clair, parce qu'à un moment donné, il peut dire, bien, écoutez, le virus, là, il est là, bon, il contamine beaucoup de monde, mais c'est une grosse grippe, encore que la grippe, c'est pas une maladie mineure, il faut quand même le rappeler, mais en tout cas, lui, c'est ce qu'il a toujours dit, donc c'est une grosse grippe, et puis je vais m'en sortir, c'est ce qu'il a dit, et ça justifie mon propos, mais en même temps, écoutez, là, il est quand même en campagne électorale, là. Puis s'il devient très, très, très malade, ça peut arriver, ça. Puis on sait jamais jusqu'où ça peut aller. Ça peut se retourner contre lui. Donc, ça peut jouer dans les deux sens. Mais je dirais que notre première réaction, parce qu'il n'est pas très populaire, notre Donald Trump préféré, hein, notre première réaction, pour beaucoup de monde, c'est de dire « Ah, je te dis qu'il perd la face, c'est humiliant pour lui. » Mais quand on y pense un petit peu plus, là, ça peut jouer en sa faveur, c'est clair.
Oui, puis ça va être difficile pour Joe Biden de capitaliser là-dessus aussi.
Ben là, c'est difficile d'attaquer. Ça le rend plus difficile, au fait, jusqu'à un certain point, de l'attaquer parce qu'il est malade. Hein. Vous savez comment c'est sur le plan humain. Déjà, on a vu un tas de leaders internationaux qui ne sont pas des amis à première vue de M. Trump, qui lui ont envoyé ses messages de sympathie, M. Poutine. Bon, donc, vous voyez, donc c'est un élément important qui va avoir un impact, mais jusqu'à quel point ça va changer. C'est trop tôt, en fait, pour le dire. Ça va dépendre. Est-ce qu'il y a juste des symptômes ou il est vraiment malade? Jusqu'où ça va aller?
Mm-hmm. On a Martin qui nous appelle. Bonjour, Martin.
Bonjour.
On vous écoute là-dessus.
Ben c'est un plan de Trump, d'après moi. Là, ça fait longtemps qu'il dit que c'est une grippe, que c'est juste une grippe, puis les élections arrivent. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'on est le 2 octobre, puis il a posté sur Twitter qu'à 2h10 cette nuit, sur son compte, c'est, d'après moi, ça va sortir. Il va arriver la semaine prochaine en pleine TV nationale avec une petite boîte comme le président du Brésil, l'hydrochloroquine. Ça a fonctionné, ça fonctionne.
Vous pensez
que 90... Oui, pardon?
Non, j'allais dire, vous pensez vraiment donc que c'est lui là, qui manipule l'information? Là.
Ben c'est parce que moi, j'ai un ami qui est au directeur de l'urgence à Houston, Texas. Puis 95% des médecins prennent de l'hydrochloroquine préventive.
Mm-hmm.
Fait que, sauf que c'est sûr que si on suit à CNN, qui sont démocrates, disons que... Mais j'ai hâte de voir ça pour la semaine prochaine, de voir sortir à la TV avec une boîte d'hydrochloroquine comme a fait le président du Brésil.
Oui. On le savait qu'il en avait pris, d'ailleurs, Donald Trump au début. Là. Il s'en est pas caché. Il a dû l'expliquer. Merci, Martin. On va s'arrêter ici. Très courte pause. On va revenir, bien sûr, avec Christian Dufour, un autre invité également, et vos commentaires. Là, visiblement, vous semblez penser pas mal, tout le monde. J'ai l'impression que c'est général. Ceux qui sont pas convaincus que c'est une fake news, il y en a d'autres qui doutent véritablement de l'état de santé du président américain. Une chose est sûre, que ça soit vrai ou pas, ce qui en ressort, c'est que ça risque de créer encore beaucoup de discussions autour de la véracité de ce virus-là. Existe-t-il vraiment? Ça va donner beaucoup de pouvoir à tous ceux qui, justement, pensent que c'est pas une raison pour nous confiner tous. Et je pense qu'on a eu une grosse semaine. On en profite pour faire un certain bilan de notre semaine où les complotistes et tous ceux qui doutent de cette maladie, ils ont été quand même assez vocaux. On les a vus. Ils ont manifesté. Il y avait même des drapeaux américains dans leur manif. Et vous voyez, là, hein, comme dirait l'autre, tout est dans tout, mais on peut voir que ça a des impacts sur nous. Alors, si vous voulez intervenir, 514-790-9850 et de l'extérieur, vous faites le 1-866-790-9850. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. Je vous demande la question à la suite de cette nouvelle qui fait le tour de la planète, c'est-à-dire que Donald Trump, le président américain, vient d'être testé positif à la COVID-19. Donc là, on a lu un communiqué de la Maison-Blanche il y a quelques minutes qui dit qu'il n'a que des symptômes très légers jusqu'à maintenant. Pourrait-il en profiter pour renforcer son message que finalement la COVID, comme il le dit depuis le début, c'est juste une grosse grippe à la rigueur, puis que lui va s'en sortir indemne, ça prouve qu'il doit être réélu. Il y a plein de manipulations ici qui peuvent être sous-entendues. Il y a bien des auditeurs d'ailleurs qui sont convaincus, même à la base, que c'est même pas vrai qu'il l'a attrapé. Est-ce une autre fake news de son cru? Faudrait être assez cynique là, pour en arriver là. Faudrait surtout être très machiavélique. Marc nous appelle. Vous êtes où par rapport à cette nouvelle, Marc, qu'on apprend là, ce matin?
Moi, je le trouve drôle, sacré Donald. C'est des vieux trucs de politiciens. C'est Jean Charest le faisait souvent. Quand que ça chauffe une place, il faut que tu mettes le feu ailleurs pour que le monde regarde ailleurs. Il fait ça. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Là, il était dans la merde avec les suprémacistes blancs. Il était dans la merde avec les sondages. Il était dans la merde avec la COVID. Il était dans la merde avec toute sa campagne électorale. C'est son financement. Il n'y a plus rien qui marche. Fait qu'on va parler d'autres choses. Puis présentement, pour 14 jours, il n'y aurait plus besoin de répondre à aucune question. C'est, puis en se faisant passer pour un malade, il va sortir de là, il va dire, regardez, moi, je suis le plus fort au monde que, que les États-Unis ont jamais connu, et puis je m'en suis sorti, je suis Superman. C'est typiquement Donald Trump, ça.
Eh bien, merci, Marc, de votre opinion. S'ajoute à notre discussion le spécialiste en affaires publiques et gestion de la réputation, Victor Henriquez. Bonjour.
Bonjour, Mme Maréchal.
Bonjour, Victor. Comment vous voyez ça, vous, donc? Est-ce que c'est plausible que le président des États-Unis ait pu inventer une chose pareille?
Ben, vous savez, la dernière intervention est l'exemple même de ce qui est en train d'arriver, là. M. Trump, que ce soit volontairement ou pas, peu importe, il vient de changer la narrative de l'élection. Et c'est l'élément qui va amener beaucoup de gens à se questionner dans les 14 prochains jours. Mais qu'on se questionne ou pas, ce que ça fait principalement, c'est que, alors qu'on parlait des suprémacistes blancs, alors qu'on parlait de son bilan COVID qui était catastrophique, maintenant on va parler de comment va Donald Trump. Et on va parler de quels sont ses symptômes, on va parler de comment va sa femme. Vous voyez, les marchés réagissent très rapidement. Donc, l'histoire qu'on raconte dans une élection vient complètement de changer. Et à un mois d'une élection, c'est sûr que ça peut avoir une influence énorme.
Mm-hmm. Et c'est vrai que ça vient de le distancier beaucoup de ce débat pathétique pendant lequel on l'a vu se livrer à des... en fait, c'était de la malpolitesse, de l'impolitesse, presque... Bon, sincèrement, un manque de civilité incroyable. On a dit beaucoup de mots, là. On avait juste envie de lui dire, comme l'a dit Joe Biden, d'ailleurs, de se taire, parce qu'on n'arrivait même pas à entendre les réponses de l'autre. C'est vrai que là, il vient de se distancier de ça, là.
Oui, tout à fait. Puis c'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont intervenir et qui vont se poser la question. Est-ce qu'il est vraiment malade? Monsieur Trump, à chaque fois qu'il a été en difficulté, a réussi par des actions, soit des actions militaires, soit par d'autres nouvelles, à détourner l'attention de l'endroit où est-ce qu'il était en position de faiblesse. À ce moment-ci, est-ce que c'est le karma qui l'amène à faire ça? Il y aura aussi à voir sa position post-COVID. Moi, bien entendu, je souhaite à tout être humain de s'en sortir, donc je souhaite à M. Trump de s'en sortir en toute santé. Et après, comment va-t-il réagir? Boris Johnson, après avoir vu la COVID, a changé son discours. Il a parlé du fait que c'était grave, lui, il a été hospitalisé, hospitalisé pendant plusieurs jours au soin intensif. Il a complètement changé son discours. M. Bolsonaro, le président du Brésil, lui, est resté sur le même discours après avoir eu la COVID en disant « c'est une simple grippe ». Comment va sortir Donald Trump de ça? Est-ce qu'il va dire, regardez, je m'en suis sorti, je suis plus fort que Joe Biden, qui lui est plus vieux que moi et ne s'en serait pas sorti? Ou est-ce qu'il va moduler son discours en disant, regardez, j'ai compris, oui, c'est une situation grave et je dois protéger mieux les Américains? Ça va être extrêmement intéressant à suivre et ça va certainement rythmer tout le restant de l'élection jusqu'au 3 novembre où est-ce que le vote va se faire.
Ouais, Christian Dufour, politicologue, est-ce que tu es d'accord, Christian, avec l'analyse de Victor, là, qui nous dit d'ailleurs que les marchés financiers pique du nez, effectivement. Là, je suis en train de vérifier, le cours du pétrole brut est en recul. Il faut dire que les marchés financiers étaient déjà un peu nerveux depuis le débat, parce qu'il y a toute son attitude par rapport au fait que ce soit les démocrates qui gagnent, puis que soudainement, ils ne veuillent pas reconnaître l'enjeu de l'élection. Si les symptômes de Donald Trump sont légers, qu'il récupère rapidement, ça risque quand même d'augmenter un certain soutien, là.
Bon, ben, je suis d'accord avec le fait que ça change le narratif de cette campagne présidentielle-là, mais aussi je suis profondément déprimé, en fait, de voir vos auditeurs et les commentateurs, parce que on voit que Donald Trump a gagné.
Tu penses que c'est pas vrai, tu veux dire?
Non, c'est pas ça. C'est qu'on voit que Donald Trump a gagné, parce que tout le concept de fake news, qu'il a répété, vos auditeurs ne le croient pas. Ils croient que c'est du fake news. Même le médecin est pas sûr. Le cynisme de la population a atteint des niveaux terribles, en fait.
Moi, je le crois,
qu'il a eu un communiqué de la Maison-Blanche, là. Mais ce qu'il y a de révélateur, c'est qu'il y a un grand nombre de personnes qui ne croient plus. Et des gens qui sont anti-Trump, au fond, Trump a gagné sur eux parce qu'il leur a inculqué l'idée qu'on ne peut pas croire, en fait, les nouvelles, que tout ça, c'était des fake news, que c'était tellement dans son intérêt politique, c'était évident qu'il n'était pas malade. Moi, je trouve ça profondément troublant, tout ça. Trump a gagné à un certain niveau.
Mais je serais tendance à être assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Et puis, ça me fait penser à cette phrase qu'on lit souvent sur les réseaux sociaux, de la peur d'un peu tout le monde, et particulièrement de ceux qui doutent ou qui croient pas, les antitoutes, là, qui disent « faites vos recherches ». Moi, le nombre de courriels que je reçois tous les jours qui me disent « ben voyons, t'es tombé dans le panneau, tu dis n'importe quoi par rapport à la COVID, c'est pas vrai, tu t'es laissé embarquer ». Il y a ce mouvement-là. Puis ce que je vois beaucoup, là, quand je disais tout à l'heure aux auditeurs, on a eu une grosse semaine, puis je trouve que c'est une des plus difficile qu'on ait eue, au-delà là, du fait qu'on est reconfiné depuis, depuis hier, mais juste au niveau là, du discours, les anti versus ceux qui y croient, c'est devenu une croyance. T'es de quel côté? Chacun à son côté. Et ça, je trouve ça dangereux également. Je sais pas ce que Victor Henriquez en pense de ça. Le clivage, finalement, le fameux clivage entre les deux groupes.
C'est vrai que c'est déprimant. Puis c'est vrai que Donald Trump a gagné. Puis le clivage est tellement fort à ce moment-ci. Puis, vous savez, une pandémie, c'est un peu comme une situation de guerre. Il faut le reconnaître. On est en situation de guerre à ce moment-ci contre une maladie insinueuse, invisible. Et c'est peut-être ça qui nous manque le plus, c'est que dans l'histoire de la planète, en temps de guerre, on a souvent eu des hommes politiques qui sont ressortis du lot avec des discours très inspirants. Je pense à des Winston Churchill et autres qui ont marqué l'histoire par leurs discours très positifs, qui ont incité, qui ont motivé une population. À ce moment-ci, dans le cas de Donald Trump et dans le cas des Américains, on ne retrouve pas ça. Et je pense que c'est un manque important en ce moment dans la géopolitique mondiale d'avoir ce discours fort qui est inspirant et qui nous amène à penser autre chose que ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, on veut nous faire du mal. La classe politique mondiale est très attaquée parce que le cynisme est tellement fort à ce moment-ci que malheureusement on a l'impression que quoi qu'un politicien dise, il y a la moitié de la population qui le remet en question à tout moment. Et c'est un peu, je suis d'accord avec Christian Dufour, c'est ce qui est le plus triste à ce moment-ci, c'est un peu déprimant. Puis en même temps, c'est ce qu'on voit être l'avènement de cette surinformation dans laquelle on vit. Ou est-ce que les gens ne savent plus vraiment quelle est la bonne source, quelle n'est pas la bonne source? Je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire de la part de tous les communicateurs puis de tous les gens impliqués aussi dans ce domaine de la politique pour améliorer les choses puis faire un véritable changement.
Parce que ce clivage, Christian Dufour, on le sent bien chez nous. Là, on le sent de plus en plus. Là. Moi, j'ai été quand même assez estomaqué de voir le nombre de gens qui s'étaient déplacés à la manif cette semaine. Il y a des manifs qui vont avoir lieu probablement en fin de semaine aussi. Déjà que les gens le disent ouvertement, qui sont mêlés, Il y a comme quelque chose, là, même les gens qui sont de bonne volonté et qui jusqu'à maintenant ont écouté les consignes se mettent un peu à douter. Et ça, je trouve que c'est extrêmement dangereux.
Mais on peut comprendre qu'ils doutent parce que le gouvernement a perdu des plumes depuis quelques jours, entre autres dans les mesures de fermeture des restaurants et des établissements culturels. Parce que là, on n'est pas dans la science, là. C'est bien beau, là. Je veux dire, on peut pas dire que c'était. Ils n'ont pas été convaincants dans les raisons pour nous expliquer qu'on fermait les restaurants, qui incarnent quand même pour beaucoup de gens la joie de vivre.
Ouais.
Bon, le fait qu'on continue. Puis il faut quand même rappeler que les gens qui ont des réserves, c'est pas tous des conspirationnistes, là, puis des débiles mentaux, puis des.
Tout à fait.
Mais ce qu'on sent, c'est de la frustration, de l'agressivité. Ça devient très irrationnel. C'est très différent d'il y a 6 mois, parce qu'au 6 mois, il y a 6 mois quand la crise a commencé, puis on a eu le méga confinement, c'était nouveau, il y avait une espèce d'adrénaline, on voulait tous faire des efforts, puis on avait l'impression surtout que ça durerait pas.
Oui.
C'est temporaire. Là, le problème dans le message actuel, c'est qu'on a l'impression qu'on s'enlise, qu'on s'enfonce. Le gouvernement a perdu de la crédibilité. Moi, je pourquoi avoir fait fermer les théâtres, les cinémas, même les restaurants? Moi, je comprends pas, pour être franc. Puis là, on nous dit, ben écoutez, là, c'est 28 jours, mais ça va peut-être être prolongé après. Et puis là, il y a les différentes régions. Moi, je comprends, il y a un climat qui est malsain, là, qui est en train de s'installer. Et c'est pour ça que je trouve qu'il faut faire attention à l'agressivité, puis aussi la tentation de chercher des boucs émissaires. C'est de dire, ah, si ça va mal, c'est à cause de cette gang-là. Donc, c'est très différent. Moi, ce que je crains, c'est que la deuxième vague, moi, je suis pas médecin, là, je sais pas si, sur le plan du virus, elle va être plus grosse ou pas que la première, mais moi, j'ai peur que pour les autres conséquences, moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, là, les gros dommages, là, c'est pas le virus. Le virus fait des dommages, puis il est dangereux, puis il est important, mais tout le reste, toutes les dommages économiques, psychologiques, sociaux sont plus importants, à mon sens, que le virus lui-même, parce qu'on s'enfonce, on s'enlise, puis il faut en parler aussi de ça. Et c'est un climat qui est délétère, qui est dangereux, et je le répète, moi, ça m'a déprimé de voir tous vos auditeurs qui disent c'est pas vrai ce que dit Trump. Dans quelle société on est rendu?
Oui, tout à fait. Alors, on va revenir là-dessus, d'ailleurs, si vous voulez bien. Puis pour nous alléger l'esprit, j'ai vraiment beaucoup ri en entendant ce matin dans l'émission de mon collègue Paul Arcand cette parodie qui a été montée par Richard Marquis et qui nous ramène justement à ce fameux débat avec une toune qui a déjà été un bon hit disco.
The radical left, will you shut up, man? Listen, who is on your list, Joe?
This
who's
is
on
so
yours?
Right. Gentlemen,
this
is, I think
this
we've
is
ended
so
this unprecedented.
He's gonna pack
the... Shut up, just shut up. Shut up, just shut up. Shut up, just shut up. Shut up. Shut up.
est toxique,
you know.
Chaotique, Sleepy Joe c'est pas le plus énergique,
you know.
Un président colérique,
you know.
Ça donne un shit show pathétique, un moment triste pour l'Amérique. Des vieux bokeh qui veulent se pogner, dans ma TV des heures à s'insulter. Un milliardaire qui ne paye pas ses impôts, cache ses papiers, veut pas nous...
Effectivement, beaucoup parmi les auditeurs doutent de cette nouvelle qui fait le tour de la planète aujourd'hui. Le président des États-Unis là, qui a la COVID, c'est quand même pas rien, surtout que dans son cas, il a vraiment beaucoup nié depuis le début les effets dévastateurs de ce virus qui nous a tous un peu cloués sur place et encore nous cette semaine, puisqu'on est reconfinés partiellement. On aura l'occasion d'en reparler d'ailleurs, hein, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut pas faire en deuxième heure d'émission. En attendant, Louis, est-ce que vous êtes d'avis, quasiment comme tout le monde, là, qui m'écrit aujourd'hui que c'est une fake news?
Oui, bonjour. En passant, je vous félicite pour votre émission.
Merci
c'est
beaucoup.
Très intéressant à chaque jour.
Merci.
Je vous suis à chaque jour aussi.
Merci.
Écoutez, non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Écoutez, ce monsieur-là, il sait qu'il est en train de perdre. Il sait qu'il va perdre. Puis déjà, tu sais, il y a beaucoup de mensonges qui sortent sur lui aussi. Et puis, il va faire tout le possible. Il va faire tout le possible. Puis je sais que bien. Si jamais il dit bon ben, j'ai le virus puis tout ça, il va revenir comme si rien, puis il va dire voyez-vous, c'est juste une grippe. C'est juste une affaire superficielle. Puis c'est un fraudeur, c'est un gars qui même il devrait même pas être là.
Ouais. Ah ben ça. Ouais. Merci Louis. Merci beaucoup. Martin, votre opinion sur ce qui se passe en ce moment et comment ça peut nous influencer, nous, au Québec?
Ben bonjour. En fait, je voulais juste appuyer le point là, de la personne qui a parlé avant, cette dernière personne ici, là, je pense que c'est Christian peut-être.
Oui.
Le fait que effectivement, M. Trump a gagné.
Ah,
il a gagné dans le sens qu'on croit, on est porté à croire que tout est un fake news.
Mm-hmm.
Et puis si jamais c'était le cas, je trouverais ça absolument comme dans les pires choses qu'il a faites, de faire semblant d'avoir la COVID présentement. Et puis, je pense qu'il faut surtout se préparer au pire. Puis le pire, ça va être qu'effectivement, il va passer à travers parce qu'il va avoir une équipe médicale incroyable autour de lui. Et puis, éventuellement, il faut qu'on rattrape le message qui va passer après ça.
Oui, c'est ça.
Parce que c'est
ouais.
sûr qu'il va tourner ça sans avantage.
Mm.
Fait que je souhaite pas de mal à personne, mais il va vraiment falloir se préparer à répondre au message qu'il va envoyer après pour toute l'influence qu'il va avoir sur les autres personnes dans le monde.
Oui, merci. Victor Henriquez et Christian Dufour, comment ça peut être récupéré, ce message-là, ici au Québec, par ceux justement qui doutent? Victor, peut-être, et Christian ensuite?
Ben, vous savez, par ceux qui doutent de l'existence même de la maladie, je veux dire, à ce moment-ci, je pense que c'est important de revenir sur une chose. La maladie de Donald Trump, selon moi, est tout à fait vraie. Je veux dire, il y a quand même des gens dans son entourage qui ont eu le COVID. M. Trump a le COVID, symptômes légers ou pas. Il faut partir de cette prémisse-là. À partir du moment où on parle de cette prémisse-là, je pense qu'il y a une responsabilité collective aussi, à la base, à se dire que, à convaincre tout le monde que c'est bien vrai et à agir en conséquence. Là, ce qu'on attend, c'est de voir est-ce que le président des États-Unis, l'homme le plus puissant au monde ou un des hommes les plus puissants au monde, va se remettre de cette maladie, parce que sinon, je pense que Christian connaît beaucoup mieux les conséquences que moi, mais les conséquences, s'il s'en remet pas, sont catastrophiques. Alors, c'est là aussi ce qu'on voit dans les marchés et tout ça. L'autre chose, ça va être du côté mondial, c'est de ramener, utiliser cette maladie-là pour se rappeler que la COVID peut toucher tout le monde. Si le président de la première puissance mondiale est touché par cette maladie, il faut le rappeler, ça peut frapper n'importe qui. Et dans un mois où est-ce que le gouvernement du Québec, entre autres, nous invite à se confiner, je pense que c'est ici une occasion supplémentaire de rappeler aux citoyens que ce que l'on fait lorsqu'on se protège, lorsqu'on se confine, c'est de tenter d'éviter le virus. Parce que oui, il y a beaucoup de gens qui s'en remettent, mais il y a des gens qui en meurent.
Ouais,
mais voyez-vous, pour répéter ce message-là.
Ouais, en ce moment, il y a un point de presse de la Maison-Blanche et on fait état de l'état de santé du président américain. On dit qu'il n'a que des symptômes légers. Je vous le disais un peu tout à l'heure, là, que c'était sorti par communiqué, mais là, en ce moment, il y a quelqu'un là, qui nous explique à quel point il fait attention à lui, mais qu'il a toujours le moral. Son moral est très fort, il est énergique. Donc, c'est comme si pour lui, il y a la COVID... Mais il en ressent quasiment pas de symptômes. Là. Déjà, voyez-vous, là, c'est quand même assez étonnant. Christian, oui. Christian, là-dessus?
Ben, moi, je trouve que c'est clair que ça n'allait pas tellement bien pour M. Trump dans la campagne électorale présidentielle. Donc, ça change le narratif, puis il peut avoir beaucoup d'opportunités pour lui là-dedans, en fait, pour en tirer profit. Mais il ne faut pas oublier, moi, je crois aussi qu'il l'a, là, bon. Donc, c'est un être humain, là, qui a la COVID, puis qui est vulnérable, qui est en position de risque, qui peut tomber très malade, à la limite, il peut en mourir aussi, là. Donc, ça va dépendre, hein, vraiment, là. Puis aussi, s'il est très malade, ça peut l'handicaper dans sa campagne. Ouais. Il est un peu trop tôt, mais c'est vrai que c'est un méga événement qui risque de changer pas mal de choses, et puis que c'est devenu aussi banalisé. Rappelons que M. O'Toole à Ottawa l'a eu, M. Blanchet, beaucoup de monde qui l'ont eu jusqu'à présent.
Ah non, c'est sûr. Ouais. Ah, mais je retiens en tous les cas vos commentaires à tous les deux. Merci beaucoup, Christian Dufour, merci. Politicologue. Merci beaucoup, Victor Henriguez, spécialiste en affaires publiques et gestion de réputation. On retient, là. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que parmi tous les appels et tous les écrits, il n'y a pas grand monde là, qui croit que c'est une vraie nouvelle. Je peux même vous dire, là, ceux qui ont appelé, tout le monde disait que c'était une fake news. Alors, on est vraiment devenu incrédule à peu près tout. On remet en question bien des choses. On va poursuivre, bien sûr, avec le cours de notre émission. On va revenir sur les restaurateurs, les entrepreneurs, les artistes. Est-ce que l'aide va être suffisante? Puis je vais vous demander ce que vous allez faire en fin de semaine après les nouvelles.